Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Il nous rejoint Thibaut Prébé pour Arbevel. Effectivement, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées un peu trop faciles. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bouh, la France et son déficit qui grimpe encore à 5,5% du PIB. Tout le monde dit pique-pendre de la France depuis hier, mais pour vous, cette hausse du déficit français, c'est pas un souci. Vous dites à ceux qui critiquent la France, bullshit. Vous foudroyez. Cette idée selon laquelle la hausse du déficit français serait grave.
Ben oui, c'est vrai que moi je suis un optimiste, vous le savez, j'aime bien voir la vie en rose, et là on est vraiment dans un mode paint it black, tout va mal, c'est terrible, la France c'est une catastrophe, le déficit est très élevé, déficit qui intéressait plus personne depuis quelques années, puis là ça revient, ça intéresse les gens, c'est tragique en France, même si aux États-Unis c'est beaucoup plus, mais tout le monde s'en fout, il y a cette idée que voilà, on est sur un déficit catastrophique, et je pense que prendre un peu de temps pour analyser qu'est-ce qu'un déficit, à quoi ça se compare, à quel type de ratio. Est-ce que ça se dégrade vraiment en France? Est-ce que c'est mieux ailleurs? C'est tout un programme qui ne peut que nous rassurer. Voilà, comme toujours, hein, quand on se compare, finalement, c'est pas plus mal. Et je pense que ce petit travail mérite ces quelques minutes de bullshitomètre, parce que je pense qu'on raconte un petit peu n'importe quoi sur ce déficit.
Donc c'est une ode au déficit que vous venez nous proposer aujourd'hui, plaidoyer pour les déficits?
Ah, pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout mon style. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Je pense juste.
On est rassuré. Hein.
Je pense que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un déficit? Comment vous définissez ça? Le déficit, c'est l'évolution d'un solde budgétaire. Si vous rentrez chez vous, que votre compte en banque a 10 000 euros de moins parce que vous avez acheté quelque chose, ou 10 000 euros de plus parce que vous avez des revenus, en fait, votre raisonnement va être de comparer votre dette, par exemple immobilière, à vos revenus. Voilà, vous allez calculer votre ratio d'endettement. Et en fait, si vous avez un peu plus de dette que l'année d'avant, mais que vos revenus ont doublé, ça ne va pas vous paraître une mauvaise nouvelle. Donc on calcule ça normalement en termes de ratio d'endettement, comment évolue notre dette. Or, il se trouve qu'on a passé des années où il n'y avait pas de croissance, pas de déficit. Et, sauf en France, sauf aux États-Unis, et pas d'inflation. Donc en fait, vous disiez, bon, bah, y a quasiment zéro d'inflation, quasiment zéro de croissance. Donc en fait, s'il y a du déficit, forcément, la dette augmente. Mais en réalité, quand vous êtes proche de 100% du PIB, vous avez votre dette, votre PIB. Votre PIB, il augmente de la croissance nominale, c'est-à-dire de la croissance plus l'inflation. Mmh. Votre dette, elle augmente du déficit. Mais en réalité, aujourd'hui, la croissance nominale en France, elle est supérieure depuis quelques années à votre déficit. Donc quand on est au voisinage de 100%, en fait, ce ratio, il est en train de baisser. Et donc cette idée qu'il y a une méga cata, alors effectivement, il ne faut pas non plus être idiot, l'idée qu'on n'arrive pas à faire baisser vraiment les déficits, ce n'est pas complètement rassurant, oui. Mais
50 ans de suite de déficit en France. Voilà.
Ouais. Mais depuis 2020, on avait atteint par exemple des ratios d'endettement français à 115% du PIB, ça a baissé tous les ans. Donc cette idée qu'on est en train d'exploser alors qu'aux États-Unis ça augmente, bah, c'est à mon avis une vision qui est,
oui,
parce qui est monocritère, qui n'est pas très cohérente,
oui,
avec
mais
la
parce
réalité.
Que, parce que vous êtes mono-exemple, vous citez la France par rapport aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, le niveau de déficit sur PIB est plus élevé qu'en France. Mais si on compare la France à l'Allemagne, à l'Espagne, au Portugal, la France n'est pas une bonne élève.
Oui, c'est vrai. Après, encore une fois, il y a aussi des pays qui ont moins eu de croissance nominale ces dernières années que la France. Donc, il faut aussi comparer ces deux agrégats qui sont comparables. Mmh. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et puis, deuxième point, il faut voir si on a de l'épargne. Parce que c'est bien d'avoir une dette qui est de qualité ou pas, mais il faut des gens pour l'acheter. C'est la même chose pour l'entreprise. Hein. Vous calculez souvent des dettes nettes sur l'EBITDA. Bah, si votre EBITDA il augmente, c'est quand même important de le savoir avant de regarder comment la dette nette a évolué. Et après, il faut voir si votre entreprise attire des capitaux. Là, la France, elle a quand même un certain nombre de bons critères. Alors, pourquoi, à mon avis, c'est pas si grave non plus? C'est pas si grave non plus parce que, en réalité, on est nombreux à avoir le même problème de dette. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une période où personne n'avait de dette publique et on trouvait que 60, c'était colossal. Aujourd'hui, en fait, c'est un problème global. Si vous découpez le monde en trois grandes zones, vous prenez les États-Unis, l'Europe et l'Asie, avec le Japon en mauvais élève, la Chine en bon élève. En réalité, toutes ces zones ont un problème de dette publique. Toutes. Et en fait, une théorie que je voudrais développer, c'est une théorie comme quoi quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a le même problème, personne n'a de problème. Vous prenez les sociétés qui sont en difficulté, elles font faillite. Mais quand vous avez le Covid et que tout le monde est en difficulté, bah, vous sortez des PGE et finalement, tout le monde s'en sort. Quand un pays a un problème de dette, bah, comme l'Angleterre il n'y a pas si longtemps ou la Grèce il y a plus longtemps, il est vite en difficulté. Quand tout le monde a la même chose, bah, toutes les banques centrales rachètent de la dette et ça marche bien. Donc si on regarde ces trois grandes zones, en fait, au niveau du déficit, c'est un peu to be three or not to be. Bah, soit tout le monde a le même problème, tout va bien, soit... Ouais. personne n'a ce problème ou un seul a ce problème et là il est vraiment mal barré.
C'est terriblement ingrat pour les Allemands par exemple qui sont beaucoup plus exemplaires que la France sur cette question des déficits et pourtant dont l'écart de taux avec la France ne s'accroît pas. C'est-à-dire que les Allemands sur le marché obligataire ne nous mettent pas la pâtée malgré leur politique budgétaire beaucoup plus orthodoxe.
Non, parce que le marché s'y intéresse, il faut bien l'avouer, assez peu et puis il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui va ensemble. Je vous rappelle que bon, quand on a cette crise entre l'Allemagne et la Grèce, crise diplomatique, en plus de la crise de la dette grecque, faut se rappeler qu'à un moment, on était quand même face à un pays exportateur qui critiquait à l'importateur de trop dépenser. Enfin, il y a un moment, il faut des gens pour produire, des gens pour consommer, il faut tout. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette situation. L'Allemagne.
C'est l'œuf et la poule qui s'insultent.
Ouais, l'Allemagne est effectivement, il faut bien l'avouer, plus vertueuse sur ce sujet, ce qui amène d'autres difficultés, parce que du coup, elle finance pas l'économie, elle est pas relais pour l'économie européenne. Et ce qui est amusant, c'est que vous le dites. L'Allemagne est un bon élève, mais le meilleur élève qu'on célèbre sur cette antenne, c'est les États-Unis, qui a plus de déficit et qui, pour le coup, ne réduit pas sa dette. Mmh. Vous voyez bien que c'est intéressant de voir que les États-Unis, avec plus de déficit et moins de réduction de dette que la France, c'est un très bon élève. L'Allemagne, avec beaucoup moins de déficit et moins de croissance, c'est un bon élève.
Je suis sûr de vous suivre sur pourquoi les États-Unis sont un bon élève.
Tout le monde célèbre l'économie américaine aujourd'hui. Vous voyez qui vous dit que l'économie américaine est pourrie? Tout le monde vous dit que c'est génial.
Non, mais il commence à y avoir. Mais si vous regardez un petit peu, il y a quand même des alertes sur le niveau de déficit des États-Unis. Moi, j'ai cru en voir passer un qui dirait qu'après l'élection, si les États-Unis s'attaquent pas à ce problème, ils risquent d'avoir un moment à la Trussell. Vous rappelez donc ce qui s'était passé à l'automne 2022,
Mort et bonne. En vrai, tout le monde s'en fout. Sur les taux américains, il se passe rien. C'est uniquement lié au monétaire, la pente est très faible, il y a des acheteurs de toutes les maturités américaines. Alors même que je vous rappelle, les États-Unis ont besoin d'attirer des capitaux. Ils n'ont pas une épargne excédentaire. Et ils y arrivent, alors que leur dette n'est pas sexy. Il n'y a rien là-dedans. Quand on regarde les agrégats qui fait envie, il y a juste cette force du dollar. Donc ce que je veux dire, c'est que on est à mi-chemin entre des gens que tout le monde estime être des très bons élèves et nous, on est nuls. C'est assez français comme manière de voir les choses. Mmh. Je trouve que économiquement, ce n'est pas très important, même si vous pourriez me le dire, les gens s'inquiètent effectivement un peu des sujets de notes.
Alors, non, mais. Très bien. Quand on se regarde, on se fait peur. Quand on se compare, on se rassure. Quand on se compare aux États-Unis, notamment, on a un niveau de déficit sur PIB inférieur à celui des Américains. Et c'est ce que vous dites. Cocorico! Les Américains font pire que nous. Sauf que eux, ils dépensent pour leur avenir, pour les investissements qui permettront la croissance de demain, améliorer peut-être leur potentiel de croissance. Nous, c'est pour des dépenses de fonctionnement. C'est là que c'est peut-être un petit peu plus embêtant, quand même, malgré tout.
Ouais, c'est pas non plus hyper clair, Les États-Unis, ils avaient un déficit d'infrastructure parce qu'ils avaient déjà une dette très élevée. Donc ça veut quand même dire que cette dette, elle est partie ailleurs. La réalité, c'est que les États-Unis sont rentrés dans un mécanisme assez pathétique de dire qu'on baisse énormément les impôts, donc on a trop de déficit, donc on casse le déficit et la dette maximum, donc on est obligé de faire une négociation pour augmenter le plafond de la dette dans la Constitution, et là, certains députés disent on ne montera pas sauf si on garde les baisses d'impôts, ce qui nous assure qu'on va le répéter. Donc on est en une spirale, c'est pas glorieux non plus, il n'y a rien là-dedans de magnifique. Ah oui, il y a des vrais plans d'infrastructure, mais c'est pas tout.
Ça, c'est la politique, mais les États-Unis, la force qu'ils ont avec le déficit, c'est surtout qu'ils ont le dollar. Ça leur accorde une liberté, un champ de manœuvre. Le Japon, ils ont une dette domestiquée, ils ont
l'immunité.
Et nous, on a quoi?
Ouais, mais les États-Unis, ils ont le dollar parce qu'ils ont cette crédibilité. La crédibilité, ça va, ça vient. Il y a des pays, on prenait le Royaume-Uni, c'était hyper crédible tout autant que les États-Unis, puis c'est devenu guignol en pas longtemps. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un statut, ça peut évoluer. Et il y a un moment où si elle est américaine, elle continue. Ça peut lasser un moment, puis c'est beaucoup la Chine qui finançait parce qu'elle avait des excédents avec les États-Unis qu'elle ne voulait pas rapatrier. Elle en a peut-être moins, donc je ne dis pas qu'il y a une inquiétude, juste que l'idée que la France est au cœur des problèmes de dette me semble une analyse trop pessimiste.
Le 26 avril, les agences de notation Moody's et Fitch actualiseront la note de la France. Le 31 mai, ce sera au tour de Standard & Poor's. Est-ce que la note de la France sera à nouveau, ou la perspective de la note, dégradée?
Alors, j'aurais deux réponses. Un, c'est probable. Deux, tout le monde s'en fout. c'est probable parce que la réalité est que la qualité intrinsèque de la dette française, comme celle de quasiment tous les pays, s'est dégradée parce que les endettements ont progressé, que les marges de manœuvre fiscales ont régressé et que la dynamique démographique fait que les ratios de dépendance et donc les équilibres sociaux vont être de plus en plus délicats. En revanche, je vous le rappelle quand même, les agences de notation, par exemple, pour les investisseurs, ont un impact. Vous êtes une caisse de retraite, une mutuelle, un assureur. Quand vous achetez une obligation d'entreprise, la notation a un impact sur le coût en capital. Donc elle vous aiguille vers des sociétés bien notées. Les emprunts d'État ont un coût de zéro. Donc si la dette française est dégradée, toutes ces sociétés qui achètent des emprunts d'État, forcées d'ailleurs par l'État, ne modifieront en rien leurs habitudes. Donc c'est évidemment un sujet. Sur le très long terme, c'est quelque chose qui peut bouger, mais vous vous souvenez par exemple de la perte du triple A américain, c'est censé être un truc absolument catastrophique, ça n'a rien fait. La réalité est que beaucoup de pays ont perdu des degrés de notes et le marché n'est pas passionné par ce genre de choses.
Non, c'est vrai, et le 10 ans français n'a absolument pas souffert de la publication du déficit public hier. Thibaut Prébé, le bullshitomètre, que vous pourrez retrouver dans quelques minutes en replay également.